VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 27 septembre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Ici à Washington, l'affaire ukrainienne s'amplifie après la publication des accusations d'un lanceur d'alerte contre le président Donald Trump.
Au Mali, 7 soldats ont été tués dans une embuscade dans le centre du pays.
En Côte d'Ivoire, une coalition de l'opposition a dénoncé hier la nomination des 15 membres de la nouvelle commission électorale indépendante.
En Centrafrique, le groupe armé 3R signale une opération des casques bleus hier contre une de ses bases dans le nord-ouest du pays.
Le Rwanda a accueilli hier soir à Kigali un premier groupe de réfugiés africains venus de Libye.
Washington accuse Damas d'une nouvelle attaque chimique à Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, et promet de riposter.
La France rend hommage à l'ancien président Jacques Chirac, mort hier à l'âge de 86 ans.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Nous aurons aussi de New York notre correspondante à l'Assemblée générale de l'ONU, Dili Diko. Pour l'instant, le journal.
Ici à Washington, publication hier des accusations d'un lanceur d'alerte qui reproche au président Donald Trump d'avoir sollicité l'ingérence de l'Ukraine dans sa campagne de réélection et à son entourage d'avoir essayé de garder cette démarche secrète. Les précisions de Jean-Roger Bion.
À quelques 400 jours du scrutin, le président américain est sous la menace d'une procédure de destitution qui a peu de chances d'aboutir au Sénat, contrôlé par son parti républicain, mais représente tout de même la crise la plus aiguë de son mandat. C'est une honte, les démocrates se conduisent comme des pirates, il doit y avoir un moyen de les arrêter, s'est écrié M. Trump, visiblement touché par ce qu'il qualifie à la fois de blague et de pire chasse aux sorcières de l'histoire des États-Unis. De son côté, l'opposition démocrate l'a comparé à un chef mafieux et s'est emparé jeudi du document du lanceur d'alerte pour accuser la Maison-Blanche d'avoir cherché à étouffer le scandale. Le lanceur d'alerte, dont l'identité n'a pas été révélée, précise ne pas avoir directement assisté à l'appel au cœur des tensions, mais avoir échangé avec plus d'une demi-douzaine de responsables très perturbés par le change entre le locataire de la Maison-Blanche et le chef de l'État ukrainien. Officiellement, la Maison-Blanche minimise la portée de son signalement, une compilation de récits de troisième main et d'articles de presse qui ne montrent rien d'inapproprié selon elle. Même pour la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, le lanceur d'alerte a mis au jour une manœuvre pour étouffer l'affaire. Nous devons mener une enquête pour clarifier les faits, a poursuivi Mme Pelosi, qui a longtemps freiné l'aile gauche du Parti démocrate désireuse d'initier une procédure de destitution contre Donald Trump.
Poursuit ce matin à New York de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le programme d'aujourd'hui et les temps forts de la journée de jeudi avec notre correspondante sur place, Dili Diko.
Ce vendredi s'annonce plutôt calme sur le plan africain. La quatrième journée du débat général contraste avec les trois premiers jours au cours desquels les nombreux discours des présidents africains se sont succédés. Hier, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, venu s'adresser pour la première fois à la tribune des Nations Unies, a déclaré que le plus grand défi de son pays est celui de la paix, de la sécurité et de la stabilité. Il a poursuivi en demandant une force onusienne moins pléthorique et plus efficace en RDC. Les deux priorités de son discours étaient la MONUSCO et la lutte contre l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Également jeudi, le vice-président ivoirien a pris la parole au nom du président Alassane Ouattara pour souligner l'importance d'une éducation de qualité qu'il a définie comme un investissement humain. Il a mis en avant la gratuité de l'enseignement de 6 à 16 ans et l'engagement de la Côte d'Ivoire à multiplier les infrastructures scolaires. Aujourd'hui, ce sera au tour du Soudan, du Cap-Vert et du Lesotho de représenter le continent. Au niveau international, le discours du Venezuela est attendu en début d'après-midi compte tenu des critiques faites par le président Donald Trump mardi dernier lorsqu'il évoquait les dangers du socialisme et la situation au Venezuela. À New York, Dili Diko, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Mali, 7 soldats ont été tués hier dans une embuscade dans le centre du pays. C'est ce qu'ont annoncé les forces armées Bagassi Koura.
Une mission des forces armées maliennes qui escortait un transport d'engrais entre Douenza et Sévaré a sauté sur un engin explosif artisanal avant d'être attaqué aux armes à feu, ont dit les FAMA. L'attaque est attribuée à des terroristes. Le nord du Mali est tombé en 2012 sous la coupe de groupes djihadistes à la faveur de la déroute de l'armée malienne. Les islamistes du Moudiao, le mouvement pour l'unicité, le djihad en Afrique de l'Ouest, ont été en grande partie chassés ou dispersés à la suite d'une intervention militaire lancée en janvier 2013 et qui se poursuit jusqu'à présent. Malgré la présence de l'armée malienne, la force du G5 Sahel, l'opération française Barkhane et les casques bleus de la MINUSMA, les violences ont continué et même se sont propagées vers le Burkina Faso et les Niger voisins, se mêlant à des conflits intercommunautaires qui ont fait plusieurs centaines de morts.
En Côte d'Ivoire, une coalition de l'opposition a dénoncé hier la nomination des 15 membres de la nouvelle commission électorale indépendante qui doit organiser la présidentielle de 2020. Elle accuse le pouvoir de se tailler une CEI sur mesure, Eric Manirakiza.
Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS est une coalition des partis politiques et associations de la société civile. EDS, dans un communiqué, dénonce et condamne la démarche qualifiée de cavalière du gouvernement et son obstination à vouloir se tailler une commission électorale sur mesure. Cette coalition de l'opposition évoque les risques que fait peser sur la Côte d'Ivoire le refus de tout dialogue politique et la propension au passage en force du pouvoir. Pour EDS, le pouvoir LHDP s'arroge 11 des 15 membres de la nouvelle commission électorale indépendante. Aucun membre du PDCI, principal parti d'opposition, ne figure dans cette commission. La crédibilité de la CEI est cruciale en vue de la présidentielle de 2020, 10 ans après la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts.
En République centrafricaine, un groupe armé, signataire d'un accord de paix avec le gouvernement, a affirmé hier qu'une de ses bases a été attaquée par la mission des Nations Unies en Centrafrique, à Koui, dans le nord-ouest du pays. Selon le général Siwo, porte-parole du mouvement 3R, l'attaque a inclus des bombardements aériens. À noter que mercredi, le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Montero, avait appelé le leader des 3R, Sidiki Abbas, à livrer les auteurs des massacres commis en mai dernier dans la région de Paoua.
L'homme fort d'Algérie, le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, a mis en garde hier contre toute entrave à la présidentielle fixée au 12 décembre. Cette élection est rejetée par la contestation qui réclame le départ du système au pouvoir depuis 2 décennies. Les précisions de John Linden.
Dans un discours prononcé dans une caserne militaire à Béchar et publié sur le site du ministère de la Défense, Ahmed Gaïd Salah souligne que tous ceux qui se mettront en travers de cette solution constitutionnelle ou qui œuvrent à faire obstacle à ce processus national vital, sous quelque forme que ce soit, trouveront une sanction juste et rigoureuse, voire dissuasive, conformément à la loi. Cette mise en garde intervient à la veille de nouvelles manifestations aujourd'hui pour le 32e vendredi consécutif. Déclenchée en février, la contestation a poussé le président Abdelaziz Bouteflika à démissionner début avril. Les manifestants réclament le départ de l'ensemble du système au pouvoir, dont celui du général Gaïd Salah lui-même, un ex-fidèle de M. Bouteflika. Une présidentielle prévue début juillet a été annulée faute de candidats. Le pouvoir intérimaire a annoncé une nouvelle présidentielle pour le 12 décembre, comme souhaité par le général Gaïd Salah, devenu de fait le véritable homme fort du pays.
Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a annoncé l'arrivée hier soir à Kigali d'un groupe de 66 Africains en provenance de Libye, et ce dans le cadre d'un programme qui pourrait voir le Rwanda accueillir des milliers de migrants évacués de la Libye. Début septembre, Kigali a signé un accord avec l'Union africaine et le HCR pour accueillir jusqu'à 30 000 réfugiés et demandeurs d'asile africains bloqués dans ce pays plongé dans le chaos.
Les États-Unis ont affirmé jeudi avoir la confirmation d'une attaque chimique commise par le régime syrien le 19 mai à Idlib, dernier bastion djihadiste dans le nord-ouest du pays. Cette attaque ne restera pas sans réponse, a averti le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Ces dernières années, le président Donald Trump a riposté par des frappes contre le régime syrien. Ce conflit syrien a fait 370 000 morts depuis 2011.
La France rend hommage à Jacques Chirac au lendemain de la mort à 86 ans du 5e président de la 5e République. Jacques Chirac entre dans l'histoire et manquera à chacun d'entre nous désormais, a déclaré jeudi soir dans une allocution télévisée le président Emmanuel Macron. La date et le lieu des obsèques de M. Chirac n'ont pas encore été communiqués. Nous reviendrons sur les rapports entre l'ancien président français et l'Afrique en seconde partie de cette édition. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
La société canadienne Lucara Diamond Corp a trouvé un diamant bleu de 9,74 carats dans sa mine de Karowe au Botswana et un diamant simple de 4,13 carats. Cette découverte de grande valeur intervient trois jours à peine après celle par la société londonienne Petra Diamond d'un diamant bleu extrêmement rare de 20,08 carats en Afrique du Sud. Les diamants bleus comprennent seulement environ 0,02% des diamants extraits et sont très recherchés pour leur couleur et leur rareté. Début 2019, Lucara a découvert le plus gros diamant non taillé dans l'histoire récente de la mine du Botswana. Il a 1758 carats et pèse près de 352 grammes. La monnaie zimbabwéenne s'est fortement dépréciée. Le taux de change est passé de 1 dollar zimbabwéen pour 1 dollar américain à 16,5 dollars zimbabwéens pour 1 dollar américain depuis le 23 septembre. Cette situation entretient déjà une forte inflation qui a atteint près de 300% en août selon le FMI. Cette année, la croissance du PIB devrait être très négative à cause de la sécheresse, l'impact du cyclone Idai et la consolidation fiscale. Pour terminer, l'Agence de régulation des postes et des télécommunications électroniques du Congo a suspendu les activités d'Azure, troisième opérateur de la téléphonie mobile. Le régulateur reproche à Azure une dette de plus de 5 milliards de francs CFA au titre des redevances. La compagnie aurait aussi du mal à supporter ses factures d'interconnexion avec les deux autres opérateurs. Azure pourrait continuer des négociations avec les autorités dans l'espoir de se relever.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Aubameyang continue son aventure avec les Panthères.
Pierre-Emerick me l'a répété, il sera là, l'équipe nationale peut compter sur lui, a déclaré Patrice Neveu, son nouveau sélectionneur au magazine France Football. Après quelques soubresauts avec les dirigeants du football gabonais par rapport à l'environnement autour de la sélection, Aubameyang a été plusieurs fois absent de la sélection lors des éliminatoires de la CAN 2019. Le Gabon ne s'est pas qualifié pour la compétition et l'attaquant d'Arsenal avait émis des doutes sur son avenir avec les Panthères. Arrivé à la tête du Gabon en août dernier pour un bail de 4 ans, Patrice Neveu a rencontré son capitaine. À l'issue de cette discussion, le joueur de 30 ans a réitéré son envie d'arborer le maillot du Gabon.
Le Nigeria a publié la liste des 23 joueurs qui feront face au Brésil.
Pas de véritable surprise dans la liste publiée par le sélectionneur Guernot Rohr. L'absence notable est celle d'Ahmed Moussa, capitaine des Super Eagles à la CAN 2019 et actuellement blessé. Victor Osimhen, en grande forme avec Lille en France, sera le leader de l'attaque avec une première apparition pour Emmanuel Denis, l'attaquant de Bruges. Le Nigeria croisera les crampons en amical contre le Brésil le 14 octobre à Singapour. Le Sénégal aussi fera face à la Seleção en amical le mois prochain dans le cadre des journées FIFA.
Le nouveau sélectionneur de l'Égypte, Hossam El Badri, a été présenté.
Conformément aux souhaits émis par les autorités du pays après l'échec du Mexicain Javier Aguirre à la CAN 2019 disputée à domicile, l'instance a porté son choix sur un technicien local. Les modalités du contrat signé par l'ancien entraîneur d'Al Ahly et ex-international avec ses 18 sélections n'ont pas été précisées. Passé depuis dans les rangs du FC Pyramide dont il participe au comité directeur, le technicien de 59 ans a pour charge de ramener les Pharaons, septuple champion d'Afrique, au plus haut niveau continental après une décennie sans titre.
Neymar et le Barça se retrouvent en justice.
La star brésilienne du Paris Saint-Germain et son ancien club ont rendez-vous aujourd'hui en Espagne sur le terrain judiciaire. L'affaire porte sur la prime dont le montant exact n'a jamais été publié, promise à Neymar en 2016 quand il s'était engagé à prolonger son contrat jusqu'en 2021. Un an après avoir signé cet accord, le Brésilien est parti au PSG et le club catalan a refusé de lui payer les 26 millions d'euros restants de la prime. Le Barça estime en effet qu'en le quittant, Neymar a rompu son contrat. Les avocats du joueur ont saisi le tribunal pour réclamer le paiement intégral de la prime.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En France, l'ancien président Jacques Chirac est décédé à l'âge de 86 ans. À la tête de l'État français de 1995 à 2007, il avait marqué les esprits en s'opposant en 2003 à la guerre en Irak face aux États-Unis. Concernant l'Afrique, M. Chirac a entretenu des relations privilégiées avec certains présidents du continent. Pour revenir sur ses rapports complexes et parfois controversés avec l'Afrique, Claire Morin-Gibourg a joint le professeur d'études africaines à l'Université Columbia de New York, Mamadou Diouf.
On l'appelait Chirac l'Africain, je pense, pour deux raisons. La première raison, c'est ses amitiés africaines. C'est-à-dire Chirac avait beaucoup d'amis en Afrique et de vrais amis, je pense. Et certains ont dit, par exemple, qu'il avait deux grands amis au Sénégal, dont l'ancien maire de Dakar. Il avait aussi des rapports assez solides avec l'ancien président du Mali, ATT. Et je pense à cause de l'intérêt qu'il avait développé autour des arts africains, il avait, malgré la réputation qu'on lui a faite, une connaissance assez fine des arts et des cultures africaines. Et ça, je pense que c'est l'influence de Georges Pompidou et de Léopold Sédar Senghor, qui étaient deux de ses mentors. Donc, il y a à la fois des amitiés personnelles, un environnement intellectuel et politique qui faisait que Chirac pouvait être africain. Et cet environnement politique, c'est parce que Chirac était un gaulliste. Et pour les gaullistes, la France sans l'Afrique faisait de la France une puissance mineure. Donc l'Afrique était essentielle à la présence de la France dans le monde.
Il ne faut pas cacher que le président Chirac a aussi aidé un certain nombre d'hommes forts, même un certain nombre de dictateurs sur le continent.
Ben oui, mais c'est ça, c'est la continuité de la politique africaine de la France. Je veux dire, il n'invente rien. C'est ça ce qu'on pourrait appeler l'aspect, disons, très très négatif de la politique française. Il a continué la politique africaine de la France. C'est-à-dire une politique qui faisait des intérêts français les facteurs dominants dans le rapport à l'Afrique.
A-t-il fait certaines erreurs en soutenant notamment que ce soit Mobutu au Zaïre d'alors ou le père Yadema au Togo?
Non, parce que c'était ça l'intérêt de la France. C'est pour ça qu'on disait que, en fait, c'est la chasse gardée de la France, le carré français en Afrique, reposait sur le soutien des dictateurs. La France n'était pas, si vous voulez, dans une dynamique qui était la dynamique de la démocratisation. Le débat sur le franc CFA retourne à cette question que les intérêts français en Afrique sont des intérêts qui, en général, ne concourent pas à la démocratisation. Donc Chirac n'a été que le continuateur d'une politique qui se continue encore aujourd'hui dans une certaine mesure.
Le professeur Mamadou Diouf, directeur de l'Institut des études africaines à l'Université Columbia de New York.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
La fermeture de la frontière du Nigeria avec le Bénin a des effets néfastes sur l'économie béninoise, notamment l'augmentation du prix de l'essence et de la contrebande, ainsi que des difficultés pour les producteurs qui peinent à écouler leurs produits agricoles. Reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Les producteurs et les commerçants appellent le gouvernement au secours depuis la fermeture du poste frontalier de Semekraki. Les producteurs agricoles qui se retrouvent avec d'énormes quantités de récoltes sans un marché d'écoulement adéquat. Quelques-uns pensent qu'il ne faut pas baisser les bras à attendre que le Nigeria rouvre ses frontières.
Dans le commerce, il faut qu'on puisse trouver des marchés qui, en dehors du Nigeria, peuvent absorber nos produits.
Il faut ouvrir les marchés sahéliens, les marchés arabo-musulmans, c'est-à-dire les marchés maghrébins, et il faut ouvrir aussi les marchés européens et asiatiques. Nous avons déjà les produits sur les bras, c'est pas la peine de nous lamenter. Qu'est-ce que nous allons faire pour que nous écoulions ces produits-là. Je pense qu'aujourd'hui, tout de suite, il faut qu'on se fie à des transformateurs. Nous allons essayer de voir les transformateurs.
D'autres pensent qu'avant de miroiter des marchés importants, il est nécessaire d'aller vers toutes les possibilités sur le plan national. Serge Sessou est producteur de maïs.
Comme porte de sortie, les sociétés de brasserie sont une solution. Négocier avec eux pour qu'ils précisent dans les 3 mois à venir quel stock ils peuvent enlever de nos bras. L'abattoir de Cotonou, combien de têtes de petits ruminants et de gros bétail ils peuvent enlever dans les 3 mois à venir.
Une équipe gouvernementale sillonne les champs à la rencontre des producteurs en vue de les écouter et leur faire part des dispositions prises par le gouvernement pour essayer de contenir la situation. Shadia Alimatou Assouman est le ministre de l'Industrie et du Commerce.
Les marchés que nous prospectons ne sont pas aussi proches. Ils ne sont pas à moins de 100 km comme le Nigeria. Donc effectivement, nous devons travailler avec les producteurs pour pouvoir améliorer la qualité de ces ananas pour qu'ils puissent tenir ne serait-ce que le voyage.
Même si la situation paraît difficile pour beaucoup, les économistes pensent qu'elle porte en elle des avantages et des inconvénients pour une économie fiscale comme celle du Bénin. Ernest Sagbou est économiste.
Si cette situation perdure, il n'y a rien à faire, l'économie va s'adapter. Les gens vont se reconvertir dans d'autres activités. Donc l'économie béninoise va connaître une adaptation, une restructuration et nous allons sûrement renforcer notre capacité à faire face à d'autres chocs dans l'avenir. À long terme, c'est profitable pour l'économie béninoise, mais à court terme, nous allons souffrir, mais on n'y peut rien.
Récemment, les rois du Bénin, dans une déclaration, ont annoncé que des propositions ont été faites pour la réouverture des frontières. Ils appellent à cet effet le chef de l'État à faire la part des choses et à répondre favorablement aux attentes du président nigérian pour le maintien des relations fraternelles entre les deux pays. De Cotonou, Jeanette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Jusqu'à ce 27 septembre, la ville de Lomé vibre au rythme de la semaine de la diplomatie climatique, une manifestation qui présente les actions que le Togo mène en matière de lutte contre le changement climatique et sensibilise la population, notamment les jeunes, sur les dangers de la pollution de l'environnement, mais aussi l'utilisation anarchique des ressources naturelles. Notre correspondante Kay Lawson est au cœur de l'événement dans la capitale togolaise. Son reportage.
La jeunesse et sa participation à l'action pour le climat, tel est le thème 2019 de la semaine de la diplomatie climatique au Togo. Le pays compte sur sa jeunesse pour insuffler du dynamisme à la lutte contre le changement climatique. L'ONG Sciences et Technologies Africaines pour un développement durable, STAD, mise sur les élèves. Rebecca Lelenda, 15 ans, élève en classe de 3e, est père éducatrice.
Quand nous voyons les gens, ils jettent les choses, pour nous, on doit les sensibiliser, pour qu'ils puissent savoir que vraiment, les déchets ont vraiment de la valeur, et puis protéger leur environnement pour les descendants futurs.
Le combat du Togo contre le changement climatique est implémenté par le biais du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, PALCC. Parmi ces projets, on peut citer celui de la réhabilitation des forêts communautaires. Claude Noutoudien, technicien de mise en œuvre du dit projet.
Ce projet se focalise sur l'utilisation des ressources. Nos communautés sont à 100% agriculteurs, donc il faut quand même leur donner les moyens pour pouvoir utiliser durablement les ressources qu'ils ont à leur disposition. Le changement climatique, les causes sont multiples et l'une des causes phares, c'est la destruction du couvert végétal.
Les arbres abattus sont utilisés le plus souvent en charbon de bois ou en bois de chauffe. L'association Action Jeune Togo a développé des fours et foyers améliorés. Gustave Souragnan, directeur exécutif de cette association.
Ce que nous recherchons, c'est l'efficacité dans l'utilisation de la biomasse. Les fours et les foyers améliorés réduisent considérablement l'utilisation de la biomasse. Par exemple, les fours, ça réduit jusqu'à 26% de la consommation en termes de charbon de bois. Donc c'est ça notre objectif, réduire l'utilisation du bois et du charbon de bois.
La lutte contre le changement climatique a pour finalité le développement durable et l'amélioration des conditions de vie des populations, soutient Afelou Baréhamna. Il est le coordonnateur du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique.
En termes de développement durable, on ne fait plus de la foresterie pour la foresterie. On ne lutte plus contre les changements climatiques juste pour faire buzz. Mais tout ce que nous faisons doit contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos communautés.
Cette semaine de la diplomatie climatique a été marquée, entre autres, par une simulation des négociations climatiques par les jeunes et des conférences publiques sur la gestion des déchets au Togo et sur l'agroécologie. Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Poursuite de cette escale en Afrique pour la protection de l'environnement, cette fois-ci en Ouganda, où la jeune entrepreneuse environnementaliste Faith Aweko, qui se définit elle-même comme une ramasseuse de déchets, transforme avec un groupe de femmes des sacs plastiques en sacs à dos pour un usage quotidien. Partons à sa rencontre à travers ce reportage d'Alima Atoumani dans la ville de Mpigi. Reportage repris ici par Lionel Gahima.
Faith Aweko n'a aucun problème à ramasser les ordures. Elle était obligée de le faire tout le temps lorsqu'elle était inondée par l'eau de pluie et les ordures de sa maison, située dans un bidonville près de Kampala. Aujourd'hui, elle travaille avec des femmes pour collecter des sacs en plastique dans le district de Mpigi, dans le sud de l'Ouganda. Ces sacs sont ensuite transformés en des sacs à dos résistants, imperméables et magnifiques. Aweko et ses collègues du projet Reform Africa voulaient faire quelque chose avec les milliers de sacs en plastique dans les rues de plusieurs villes ougandaises. Faith Aweko, fondatrice du projet Reform Africa.
Elle ramasse les bouteilles en plastique, mais aussi les sacs de polythène qui sont les plus dangereux pour l'environnement. Et vous les trouverez partout. Certains les brûlent, d'autres les jettent dans leur jardin, ce qui n'aide pas non plus pour avoir une bonne production agricole.
En Ouganda, le sac de polythène le plus populaire est celui de 30 microns. De recherches ont montré qu'il faudra 1000 ans pour qu'un sac se décompose. Aweko a eu l'idée de compresser ces sacs ramassés à l'aide d'un fer à repasser, puis coudre les tissus pour fabriquer un sac à dos. Naluyima Shamim, cofondatrice du projet Reform Africa.
Nous les repassons. Nous compressons 15 sacs en plastique pour en faire un solide sac à dos. Nous avons des modèles et nos clients veulent avoir des marques dessus.
Rachel Mema, une réfugiée venue de la République démocratique du Congo, travaille avec le projet Reform Africa. Elle vivait dans un camp de réfugiés où il y avait beaucoup de déchets plastiques qui servaient de nid aux moustiques qui propageaient des maladies.
Ces solutions ne concernent pas seulement les citadins, mais aussi les personnes qui ont vraiment besoin d'avoir quelque chose qui respecte l'environnement. C'est pour protéger notre santé, car nous souffrons tous avec le plastique.
Alors que les dirigeants du monde sont réunis à New York pour parler du changement climatique, Shamim et les membres du projet leur demandent de ne pas regarder seulement les revenus générés par les sacs en plastique, mais d'être plus conscient de l'urgence climatique et d'agir dès maintenant.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.